7h51 à Paris, votre invité, Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin Axel Poniatowski, député Les Républicains, candidat dans la 10e circonscription du Val d'Oise, vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Bonjour Axel Poniatowski.
Bonjour.
Pour vous, y a-t-il une affaire Richard Ferrand ?
Il y a clairement un sujet. Moi, je n'aime pas beaucoup commenter ce genre d'affaires en général. Ce que je ne comprends pas très bien dans cette affaire, c'est pourquoi est-ce que le parquet financier semble ne pas vouloir se saisir de cette affaire. Ou bien il y a des aspects illégaux dans cette affaire et à l'évidence il faut que le parquet s'en saisisse, ou bien on n'est que sur une affaire de morale et à ce moment-là c'est un autre sujet.
Oui, mais sauf qu'on est en plein débat sur la moralisation de la vie politique, et c'est que c'est l'une des réformes que le nouveau président de la République veut faire passer très rapidement. C'est toujours cette question, au fond, qui se pose. Il y a des choses qui sont légales, mais qui aujourd'hui, en tout cas aux yeux des Français, n'apparaissent plus morales.
Oui, c'est vrai. C'est clair que ça tombe mal pour le pouvoir en place. Surtout que M. Ferrand était tout de même le bras droit de Emmanuel Macron pendant toute la durée de la campagne présidentielle. Mais au-delà de ça, ça pose le problème de savoir jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans la transparence de la vie politique. Moi, je considère que sur une affaire comme celle-ci, il y a nécessité à ce que le parquet financier se saisisse de l'affaire. Dans un passé récent, le parquet financier s'est saisi d'affaires qui étaient tout aussi comparables. Donc je ne comprendrai pas pourquoi le parquet financier ne s'en saisisse pas.
Voyez-vous les points de convergence entre le programme d'Emmanuel Macron et celui des Républicains, comme les voix de nombreux élus de chez vous, mais aussi le Premier ministre, Édouard Philippe, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ou le ministre des Comptes Publics, Gérard Darmanin?
Alors, il y a à l'évidence des points de convergence, il y a aussi des points de divergence, bien sûr, mais il y a des points de convergence sur les aspects économiques du programme de Emmanuel Macron. Moi, je considère que tout ce qui sera proposé en vue d'améliorer la lutte contre le chômage et la compétitivité des entreprises devra être soutenu. Si telles sont les dispositions qui nous sont proposées à l'Assemblée nationale, personnellement, je les voterai. Même si...
Notamment sur la réforme du travail?
En particulier sur la réforme du travail, mais aussi sur la baisse des charges et l'impôt sur la société, sur le fait de desserrer un peu l'étau du code de travail, sur la suppression du compte de pénibilité qui est absurde. Et ce sont des dispositions, si elles sont proposées, que je soutiendrai, même si sous certains aspects, on pourrait considérer qu'il faudrait aller encore plus loin. D'accord ? Mais en l'état actuel des choses, tout ce qui pourra contribuer à améliorer la lutte contre le chômage et en particulier la création d'emplois, moi je le soutiendrai. N'oublions pas tout de même que même si les chiffres du chômage se sont améliorés le mois dernier, le mois précédent c'était 44 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, et surtout le quinquennat de François Hollande c'est plus 600 000 chômeurs. Par conséquent, c'est la priorité numéro un, c'est la priorité absolue.
Mais dans la future Assemblée nationale, vous souhaitez participer à une sorte de force d'appoint à la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, si tant est qu'il en ait besoin, s'il n'a pas de majorité absolue, ou vous espérez, vous visez vous-même la majorité absolue, et finalement, donc, la direction du gouvernement avec un nouveau Premier ministre?
L'objectif, évidemment, c'est que nous visons la majorité absolue. Et moi, je crois, en plus, que sur ces aspects économiques, Emmanuel Macron a véritablement besoin d'un soutien de notre part, et par conséquent d'avoir un nombre de députés républicains qui arrivent en force à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que nous soutiendrons bien mieux ces dispositions économiques que Emmanuel Macron s'apprête à nous proposer. Mais moi je suis républicain et je reste républicain. Parce que je vous parlais de convergence, il y a aussi les divergences, et il y a notamment pas mal de divergences dans les grandes fonctions régaliennes sur lesquelles Emmanuel Macron s'est peu prononcé.
Pour faire très simple, il y a aujourd'hui une ligne qui est celle d'Édouard Philippe ou celle de Bruno Le Maire qui ont clairement rejoint Emmanuel Macron. Et il y a la ligne François Baroin qui est pour une authentique différenciation. Vous étiez plutôt proche de François Baroin. 1 que de Bruno Le Maire ou
Edouard Philippe. Je suis, et surtout, enfin, j'ai entendu récemment François Baroin, justement, il considère qu'il peut y avoir des majorités d'appoint qui se constituent, mais projet par projet.
Au cas par cas.
Au cas par cas. Et moi, je considère que, une fois de plus, la lutte contre le chômage est la priorité absolue que doit, auquel doit s'attaquer le gouvernement.
Approuvez-vous la prolongation de l'état d'urgence annoncée hier par Emmanuel Macron ?
Oui, je crois que c'est nécessaire. On en est à la 4e ou 5e prolongation.
Mais justement, est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? Est-ce que ça ne devient pas une espèce d'état permanent ? Alors que c'est en principe un état d'exception.
Non, ça donne des moyens aux forces de l'ordre, et en particulier à la police et à la gendarmerie, d'être plus efficaces, en particulier au niveau des perquisitions.
Beaucoup d'avocats, de magistrats aujourd'hui, pourtant, disent que si ça a pu être efficace dans les premières semaines de sa mise en place, aujourd'hui, ça ne permet plus rien.
Moi, c'est pas ce que me disent les gendarmes sur le terrain. Les gendarmes.
Vous avez des remontées concrètes aujourd'hui.
Des remontées concrètes, et en particulier les brigades de recherche vous disent que ça leur facilite grandement le travail. Par conséquent, je pense que ça n'est pas le bon moment pour le supprimer.
Qu'est-ce que l'on peut attendre, selon vous, du premier sommet de l'OTAN qui se tient aujourd'hui, le premier de la nouvelle présidence américaine de Donald Trump?
Le sujet, à l'évidence, va être de nouveau la demande de la part des États-Unis d'une participation renforcée des pays européens à l'effort de l'OTAN, au budget de l'OTAN. Moi, je peux comprendre cette demande de la part des États-Unis, qui n'est pas nouvelle, qui revient sans cesse. Je vous rappelle aussi que nous, Français, de longue date, avons demandé à nos partenaires de l'Union européenne de renforcer leur budget de la défense. D'ailleurs, on s'était fixé ce fameux objectif de 2% du PIB. Nous n'y sommes pas. Nous-mêmes, Français encore, puisqu'on est à un 7 ou un 8, mais la plupart des pays européens sont au-dessous de 1%. Et ça, ce niveau-là est tout à fait insuffisant, vu la menace terroriste qui existe aujourd'hui.
L'OTAN a décidé hier de rejoindre la coalition internationale contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Chacun des États membres de l'OTAN faisait déjà partie, à titre individuel, de cette coalition, mais pas l'Alliance Atlantique en tant qu'organisation. Donc, qu'est-ce que ça change ?
Moi, j'allais vous dire, il était temps que ça se fasse, parce que ce que ça change au niveau du commandement. Toute la force de l'OTAN réside dans cette coordination des actions dans le commandement. Et comme vous le dites, chacun des États membres individuellement faisait partie de la coalition internationale. Il était temps que l'OTAN en tant que telle se joigne également à cette coalition internationale, tout simplement pour plus d'efficacité, pour plus de participation.
Merci Axel Poniatowski.
Merci.
Bonne journée.
Beaucoup.